De la consommation à la création. Se constituer un second cerveau ne se résume pas à capter des faits, des théories et les opinions d'autrui. Fondamentalement, il s'agit de cultiver la conscience et la connaissance de soi. Si une idée résonne en vous, c'est parce qu'elle vous renvoie à quelque chose qui vous habite déjà. Toute idée extérieure est comme un miroir qui fait remonter en surface les vérités et les histoires qui veulent être racontées. Dans un livre publié en 1966, The Tacit Dimension, le philosophe britannico-hongrois Michael Polanyi a émis la remarque suivante, connue depuis sous le nom de paradoxe de Polanyi. Nous en savons plus que ce que nous pouvons dire. Il a ainsi observé qu'il y a de nombreuses tâches que nous pouvons facilement accomplir en tant qu'humains, sans savoir pour autant entièrement les expliquer, comme conduire une voiture ou reconnaître un visage. Nous aurons beau nous efforcer de décrire en détail comment nous faisons ces choses, nos explications seront toujours insuffisantes. Pourquoi ? Parce que nous nous appuyons sur des connaissances tacites qui résident dans notre subconscient et notre mémoire musculaire, hors de portée de notre langage. Ce problème, connu sous le nom d'auto-ignorance, a constitué un obstacle majeur au développement de l'intelligence artificielle et d'autres systèmes informatiques. Comme nous n'arrivons pas à décrire comment nous savons ce que nous savons, ces tâches ne peuvent pas être programmées dans un logiciel. Si cette connaissance tacite peut être considérée comme une malédiction pour les informaticiens, elle est en réalité une bénédiction car elle constitue l'ultime avantage des humains sur les machines. Les emplois et les activités qui reposent sur ce type de connaissances seront les derniers à être automatisés. En construisant votre second cerveau, vous collecterez de nombreux faits et chiffres, mais ces artefacts externes ne sont qu'un moyen de découvrir le savoir qui vit en vous en le faisant remonter à la surface. Si nous en savons plus que ce que nous pouvons dire, alors nous avons besoin d'un système permettant d'identifier et d'extérioriser en permanence nos vastes connaissances qui ne peuvent provenir que d'expériences vécues. Vous savez des choses sur le fonctionnement du monde que vous n'êtes pas en mesure de pleinement exprimer. Vous comprenez la nature humaine à un niveau intuitif profond. Vous percevez des motifs et des connexions dans votre champ d'expertise qu'aucune machine ou aucun autre être humain ne détecte. Les expériences que vous avez vécues vous permettent d'appréhender le monde sous un angle unique. À travers cette lunette, vous percevez des vérités susceptibles d'avoir un impact positif profond sur vous et sur les autres. On ne cesse de nous répéter que nous devrions nous écouter et poursuivre nos désirs les plus chers, mais que faire si on ne les connaît pas? Si l'on n'a aucune idée de ce qu'est ou devrait être notre mission dans la vie? Sans se connaître, comment savoir ce que l'on veut et se donner une direction? Le cheminement qui mène à la connaissance de soi peut sembler mystique, mais de mon point de vue, il est au contraire éminemment pratique. Cela commence par le fait de remarquer ce qui résonne en nous, de prendre note des choses dans le monde extérieur qui nous interpellent et nous procurent comme une sensation de déjà-vu. Votre esprit abrite un univers de pensées, d'idées et d'émotions. Au fil du temps, vous découvrirez de nouvelles strates et facettes de votre identité. Vous chercherez en dehors de vous pour mieux fouiller en vous, en sachant que tout ce que vous trouverez aura toujours fait partie de vous. Le besoin fondamental d'expression de soi. Au chapitre 1, je vous ai fait part de ma condition médicale inexplicable et de la manière dont cela m'a conduit à me mettre à organiser mes informations à l'aide du numérique. Durant ce voyage initiatique, j'ai vécu quelques années dans un état de profond abattement. Il me semblait que j'avais épuisé tous les remèdes et solutions possibles que m'offrait la médecine moderne. Faute d'arriver à diagnostiquer la cause de mon mal, les médecins me disaient que tout se passait dans ma tête. Je souffrais le martyre et me réveillais la nuit, la nuque si raide que j'avais l'impression d'avoir la gorge prise dans un étau. Toute mon attention était accaparée par la douleur. J'avais du mal à tenir une conversation ou à socialiser. Et j'ai commencé à m'éloigner de mes amis et de mes cercles sociaux. Je passais de plus en plus de temps sur Internet où je pouvais communiquer et échanger sans faire usage de ma voix. Cependant, à mesure que je m'isolais, je devenais chaque jour plus sombre et désespéré. À un moment, j'ai même pensé que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. Comment pourrais-je jamais avoir de compagne ou d'amis si je ne pouvais pas parler? Quel genre de travail pourrais-je obtenir avec cette maladie chronique imprévisible? Quel futur m'attendait alors que mes symptômes ne faisaient que s'aggraver sans espoir de traitement possible ni même de diagnostic? C'est à cette époque que j'ai fait deux découvertes qui ont changé ma vie et m'ont sauvé. La première a été la méditation et la pleine conscience. J'ai commencé à méditer et, ce faisant, j'ai découvert un mode de spiritualité et d'introspection dont j'ignorais jusqu'alors totalement l'existence. À ma grande stupeur, j'ai ainsi appris que je n'étais pas la somme de mes pensées. Mes pensées ne sont que le constant brouhaha produit par mon inconscient et je suis libre de les croire ou non. La méditation m'a plus soulagé que n'importe quel autre médicament que les médecins ont pu me prescrire. La douleur est devenue mon guide, en me montrant ce à quoi je devais prêter attention. À mesure que la méditation me permettait de vivre des expériences de plus en plus intenses et profondes, j'ai eu envie de partager ce que j'avais appris avec d'autres. Cela m'a conduit à ma deuxième découverte majeure. Écrire pour un public. J'ai lancé un blog et le sujet de mon premier billet a porté sur ce que j'avais vécu lors d'une retraite de méditation Vipassana en Californie du Nord. Comme j'avais toujours du mal à parler, l'écriture est devenue mon refuge. Sur mon blog, je pouvais partager toutes les idées que je voulais, de façon aussi détaillée que je le souhaitais. J'étais aux commandes, sans être limité dans ma capacité à m'exprimer. Cette expérience m'a appris une chose. L'expression de soi est un besoin humain fondamental. Elle est aussi essentielle à notre survie que nous nourrir ou nous abriter. Nous devons être capables de partager nos histoires personnelles, des petits moments de notre journée d'étudiant à nos grandes théories sur le sens de la vie. À votre tour, le courage de partager. J'ai discuté de leur vie avec nombre d'individus et j'ai souvent remarqué combien ils sont nombreux à avoir de belles histoires, puissantes et émouvantes à partager. Cependant, leurs expériences uniques ont beau leur avoir fait gagner en sagesse, la plupart d'entre eux les sous-évaluent. Un jour, peut-être, ils les partageront, pensent-ils. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune raison d'attendre. Le monde est impatient d'entendre ce que vous savez. En partageant votre vécu et vos réflexions personnelles, vous pouvez changer des vies. Prendre la parole pour délivrer son message requiert du courage et rend vulnérable. Cela demande d'aller à contre-courant, de refuser de se taire et de se cacher face à la peur. Trouver sa voix et dire ses vérités est un acte radical d'affirmation de soi. Qui êtes-vous pour oser vous exprimer ainsi? Qui vous dit que vous avez quoi que ce soit d'intéressant à proposer? Qui êtes-vous pour exiger qu'autrui vous écoute et vous consacre du temps? La seule façon de découvrir la réponse à ces questions est de vous exprimer et de voir ce qui en ressort. Certaines de vos prises de parole n'accrocheront peut-être pas votre public ou seront sans valeur pour lui, mais parfois, vous viserez juste. Une façon de considérer les choses, une perspective, une histoire, ce qui étonnera votre auditoire et transformera la manière dont il voit le monde. Ce peut être quelqu'un avec qui vous prenez un café, un client ou ceux qui vous suivent en ligne. Dans ces moments, le gouffre qui nous sépare les uns des autres est comblé. Un bref instant, vous sentirez au plus profond de vous-même que nous sommes tous liés par une communauté de destin. Nous faisons tous partie de la vaste étoffe effilochée de l'humanité. Et notre vocation est simplement d'y contribuer à notre modeste niveau. Avec tous ces enseignements à portée de main, vous serez dorénavant en mesure d'entreprendre des projets bien plus ambitieux qu'avant. Vos capacités vont croître parce que l'énergie et le temps affectés à vous rappeler des choses pourront désormais être consacrés à la créativité. Armé de votre puissant second cerveau, vous pourrez faire ce que vous voulez et être qui vous voudrez. Tout n'étant qu'information, vous serez devenu maître dans l'art de la faire circuler et de la modeler pour qu'advienne le futur de votre choix. Dernière pensée. Vous en êtes capable. Il n'y a pas qu'une façon de se construire un second cerveau. Votre système peut bien sembler chaotique à d'autres, s'il vous enchante et vous permet de progresser, c'est qu'il est bien comme il est. Vous pouvez commencer avec un projet simple, puis peu à peu vous attaquer à d'autres, plus complexes ou ambitieux, à mesure que vous montrez en compétence. Aussi, vous constaterez peut-être que vous utilisez votre second cerveau de manière totalement imprévue. À mesure que vos besoins évolueront, sentez-vous libre d'écarter ou, au contraire, de vous approprier les parties que vous jugerez utiles. Ce que je vous propose n'est pas à prendre ou à laisser en bloc. Si une partie n'a pas de sens pour vous ou ne résonne pas en vous, mettez-la de côté. Choisissez et combinez les outils dont je vous ai parlé et les techniques que je vous ai enseignées dans ce livre audio en fonction de vos besoins. Ce n'est que comme ça que vous vous assurerez que votre second cerveau vous accompagnera tout au long des différentes étapes de votre vie. Où que vous en soyez actuellement, que vous commenciez à prendre l'habitude de tout noter, que vous trouviez des façons de vous organiser de manière plus efficace et de mettre en lumière vos réflexions les plus pertinentes, ou que vous ayez déjà réussi à produire un travail plus original et impactant, vous pouvez toujours vous reporter aux quatre étapes de la méthode CODE. Gardez ce qui résonne en vous, captez. Sauvegardez en vue d'une utilisation future, organisez. Faire apparaître l'essence, distiller. Partager son travail, exprimer. Si, à un moment donné, vous vous sentez débordé, prenez du recul et concentrez-vous sur ce qui est essentiel dans l'immédiat. Vos projets et priorités les plus importants. Ne vous souciez que des notes qui vous permettront de les faire avancer. Au lieu d'essayer de structurer d'emblée l'ensemble de votre second cerveau, ne traitez qu'un projet à la fois, étape par étape, de la captation à l'expression de vous-même. Ce faisant, vous constaterez que chaque stade est beaucoup plus facile et plus souple que vous ne l'aviez imaginé. Vous pouvez également simplifier les choses en vous concentrant sur une seule étape de la construction de votre second cerveau. Réfléchissez à votre situation actuelle et à celle que vous visez dans un avenir proche. Vous souhaitez avant tout pouvoir retenir plus d'informations? Attachez-vous à développer votre compétence à capter et à organiser vos notes par projet, engagement et centre d'intérêt en utilisant le système PARA. Vous désirez mieux connecter des idées entre elles et accroître votre capacité à planifier, à influencer et à vous développer d'un point de vue tant personnel que professionnel? Entraînez-vous à distiller et à affiner vos notes régulièrement en appliquant la technique du résumé progressif et en prévoyant des passages en revue hebdomadaire. Vous voulez accroître la quantité et la qualité de vos productions tout en étant moins stressé et frustré? Concentrez-vous sur la création d'une brique intermédiaire à la fois et réfléchissez aux occasions de partager vos productions de manière de plus en plus audacieuse. Pour vous lancer au mieux dans cette aventure, mettez dès à présent en œuvre les 12 points suivants qui vous permettront de faire de la gestion de vos connaissances personnelles une habitude. 1. Décidez de ce que vous voulez capter. Voyez votre second cerveau comme un memento intime. Que désirez-vous capter, apprendre, explorer, partager avant tout? Identifiez les deux ou trois types de contenus qui ont déjà de la valeur pour vous pour commencer. 2. Choisissez une application de prise de notes si ce n'est pas déjà fait. Référez-vous au chapitre 3 et servez-vous du guide gratuit que vous trouverez sur www.buildingsecondbrain.com/resources pour comparer les options à votre disposition et voir mes recommandations. 3. Sélectionnez un outil de captation de contenu. Je vous conseille de commencer avec une application de lecture différée de contenu pour sauvegarder ce qui vous intéresse. Croyez-moi, cela changera radicalement la manière dont vous envisagerez la consommation de contenu. 4. Mettez Para en application. Créez vos quatre sphères Para, projet, domaine, ressources, archives. Puis, en ayant en tête leur mise en œuvre, des dossiers dédiés ou des balises pour chacun de vos projets actifs. De là, concentrez-vous sur la captation de notes liées à ces projets. 5. Pour vous inspirer, identifiez vos 12 problèmes les plus récurrents, listez-les dans une note que vous consulterez chaque fois que vous aurez besoin d'idées pour savoir quoi capter. Servez-vous de ces questions ouvertes comme filtre pour décider quel contenu conserver. 6. Captez de manière automatique les passages que vous surlignez dans vos livres numériques. Liez votre liseuse ou votre application de lecture différée à votre application de prise de notes à l'aide d'un outil d'intégration, de façon que les passages que vous surlignerez soient automatiquement sauvegardés dans vos notes. 7. Entraînez-vous au résumé progressif. Résumez un ensemble de notes liées à un projet actif en utilisant les strates multiples de surlignage pour tester comment cela affecte votre façon d'interagir avec ces informations. 8. Concentrez-vous sur une brique intermédiaire. Choisissez un projet vague, tentaculaire ou tout simplement difficile et sélectionnez un de ces éléments constitutifs, une brique intermédiaire, pour travailler dessus. Ce peut être une proposition commerciale, un graphique, le déroulé d'un événement ou encore des points clés pour une réunion avec votre supérieur hiérarchique. Décomposez le projet en éléments de petite taille, travaillez l'un d'entre eux et partagez-le avec au moins une personne pour recueillir ses commentaires. 9. Finalisez un livrable. Choisissez un livrable dont vous êtes responsable et en vous servant des techniques express de l'archipel des idées, du pont Hemingway et de la réduction de portée, voyez si vous arrivez à faire des progrès significatifs en n'utilisant que les notes sauvegardées dans votre second cerveau. 10. Planifiez une revue hebdomadaire. Fixez-vous un créneau dans votre agenda pour prendre l'habitude de mener une revue hebdomadaire. Pour commencer, videz votre boîte de réception de notes et décidez quelles seront vos priorités pour la semaine. De là, vous pourrez toujours ajouter d'autres étapes à mesure que vous gagnerez en confiance en vous. 11. Évaluez votre degré de compétence en prise de notes. Évaluez votre capacité à prendre des notes et vos axes d'amélioration en vous servant de l'outil gratuit à votre disposition sur www.buildingsecondbrain.com/quiz. 12. Rejoignez la communauté PKM, gestion de connaissances personnelles. Sur Twitter, LinkedIn, Substack, Medium ou toute autre plateforme de votre choix. Abonnez-vous à des leaders de pensée et rejoignez des communautés qui produisent du contenu en lien avec la gestion des connaissances personnelles. Hashtag PKM, hashtag Second Brain, hashtag BASB, hashtag Tools for Thought. Partagez les meilleures leçons que vous aurez retirées de ce livre audio, des révélations que vous aurez eues ou des découvertes. Il n'y a rien de plus efficace pour adopter de nouveaux comportements que de s'entourer de gens qui ont déjà sauté le pas. Si le fait de se construire un second cerveau est un projet auquel vous pouvez vous consacrer à un moment donné et que vous pouvez clore en un laps de temps raisonnable, s'en servir est une pratique de toute une vie. N'hésitez pas à réécouter cet ouvrage à différents stades de votre développement personnel. Je vous garantis qu'à chaque fois, vous en tirerez de nouveaux enseignements utiles. Que vous vous concentriez sur la mise en œuvre d'un seul aspect de la méthode CODE, que vous soyez déterminé à l'appliquer intégralement ou que vous décidiez d'adopter une position intermédiaire, votre relation à l'information va changer. Vous développerez également une nouvelle relation à votre propre attention et à votre énergie. Fort de votre nouvelle identité, vous prendrez en charge l'information qui vous entoure, même si vous ne savez pas toujours ce qu'elle signifie. Lorsque vous vous engagerez sur la voie de la gestion à vie de vos connaissances personnelles, repensez à vos succès antérieurs. Certaines pratiques dont vous n'aviez jamais entendu parler auparavant font désormais partie intégrante de votre vie. Certaines habitudes et compétences qui semblaient impossibles à maîtriser vous sont devenues indispensables. De nouvelles technologies que vous aviez juré ne jamais adopter font maintenant partie de votre quotidien. Autrement dit, ce qui peut vous paraître peu familier et étrange aujourd'hui finira par vous sembler tout à fait naturel. Si je pouvais vous donner un dernier conseil, ce serait de ne pas lâcher ce qui résonne en vous. Chaque fois qu'une histoire, une idée ou une nouvelle possibilité vous captive, vous obsède, ne faites pas comme si cela n'avait aucune importance. Ces moments qu'aucune technologie ne peut reproduire sont au contraire extrêmement précieux. Alors, allez-y. Poursuivez vos obsessions avec toute l'énergie dont vous êtes capable. Simplement, n'oubliez pas de prendre des notes en chemin.